L'épisode de Pop & Co commence par un avertissement. Quand nous dirons boire au cours de cette émission, il sera question d'évoquer le premier album de Miossec et de lever le coude si l'envie vous en prend. Pop & Co aujourd'hui, c'est donc Boire et son histoire. Un disque qui a détonné tout de suite et qui est devenu une balise avec le temps pour la musique, les paroles, ce qu'il raconte de la France d'hier et d'aujourd'hui encore. En 95, j'écoutais La Vieille, l'un des titres de cet album. Miossec y chante « Si tu connais le désir qui va vite et qui dure longtemps, je voudrais que tu m'y précipites du haut de tes 40 ans. Une vraie beauté à son zénith, ça n'est jamais à 18 ans. » En 95, je n'avais pas 40 ans. 25 ans plus tard, je les ai bien, bien tassés et ces paroles me parlent encore plus qu'avant. Vers 11h45, on entrera dans les coulisses d'une chanson. Une chanson d'un autre Christophe, Christophe tout court, celui d'Aline, prénom qu'il a crié. Deux Christophe pour un Pop & Co. Bonjour et bienvenue.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
1995, c'était donc il y a 25 ans, soit un quart de siècle. Quand je le dis comme ça, quart de siècle, les années pèsent plus lourd. Mais 1995, c'était quoi? En fait, ce n'est pas si loin.
Le cortège de Jacques Chirac en direct, suivi par notre moto.
Qui vient de quitter l'avenue d'Iéna, il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République.
Eh ben, ça va les dents.
Eh oui, et moi mes gencives.
C'est du béton.
Mise en scène. La haine de Mathieu Cazoré.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
C'est à moi que tu parles, enculé.
Il se répète sans cesse pour se rassurer.
C'est à moi que tu parles.
Jusqu'ici, tout va bien.
C'est à moi que tu parles, là.
Jusqu'ici, tout va bien.
Putain, c'est à moi que tu parles comme ça, ouais.
Dans de nombreuses métropoles, cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs, ont uni leurs voix pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leurs revendications multiples.
C'est tout.
Et à la radio, on découvrait Miossec avec ce titre. Non, 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 je ne suis plus sous.
Mais ne raccroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore, tu me prennes pour quelqu'un. Tes yeux brillent si fort, comme moi quand je suis plein. Bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la ferme et tes genoux à terre. Non, 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 non. Je ne suis plus sous, un peu à bout c'est rien. Je crois en toi, c'est tout. Non, 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 non. Je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Non, je veux de toi, c'est tout.
Septembre 2020, un café de Ménilmontant au nord-est de Paris. J'entre avec le micro dans la main, je regarde la patronne qui me fait de grands signes au lieu de parler parce qu'elle ne veut pas qu'on l'entende. Je comprends, il est dans l'arrière-cour. Et c'était vrai, Christophe Miossec attablé, avec un café allongé et un paquet de tabac à rouler.
J'ai le trac, je pensais pas que c'était une émission entière. Ah.
On souffle alors, si vous avez le trac. Le trac, moi aussi je l'ai, mais j'ai pas osé le dire. Vous en étiez où, vous, à ce moment-là, dans votre vie? Au moment de la sortie de Boire,
oh, j'étais dans une sorte de tourbillon que j'avais moi-même créé, quoi, en fait, donc j'avais pas. Non, j'étais vraiment complètement suspens, j'avais plus de logement, j'avais plus de boulot, j'étais. Je dormais à droite à gauche sur Brest, où j'avais intégré la chambre de chez mes parents, enfin, j'étais vraiment une vie très. Ouais, un peu délirante, en fait. Hein. Bah, qui correspondait pas mal au texte de Boire, donc aussi je me sentais un peu. Comment dire ça? Je savais que Boire n'était pas. Je savais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, je savais que c'était honnête, en tout cas, enfin, que ça représentait une partie de ma vie.
Vous aviez quel âge?
J'allais sur mes 30 ans. C'était vraiment cette date fatidique qui m'a. 30 ans, je voyais des 30 ans arriver, puis j'avais fait plein de boulot depuis l'adolescence, quoi, en fait. Et je me rendais compte que. J'avais un problème avec le monde du travail, enfin, j'avais du problème avec l'autorité, des choses comme ça, même si j'aimais beaucoup travailler. Mais il fallait vraiment que je trouve quelque chose de personnel. Et c'est là que je me suis remis à la musique, en fait, un peu tout bêtement. Ça m'est retombé dessus. Et...
30 ans pour sortir un tout premier disque, ça fait un petit peu tard.
Surtout, oui, encore plus à l'époque où on aimait encore plus les jeunes. Oui, c'est pour ça, en fait, quand je travaillais les maquettes tout seul chez moi, enfin, j'en parlais à personne, je disais à personne que je faisais de la musique parce que j'étais beaucoup trop âgé pour me remettre à la musique, quoi, en fait. Le peu de fois que je l'avais fait, je voyais des petits sourires que les gens, enfin, je veux dire, c'était vraiment de la commisération, quoi, en fait. Hein, c'était un peu le pauvre gars la dérive, donc je préférais tout simplement ne pas en parler. Mais j'avais l'appui de 2-3 personnes sur le travail que je faisais, c'est pour ça que je continuais, en fait. Enfin, il suffit, ouais, une ou deux personnes, même, c'était.
S'il fallait te raconter ma vie, on resterait là toutes les nuits, car pour quelques sourires, alors, j'en ai connu des temps morts.
Quels sont les disques qui ont mené à boire, les disques qui ont compté? Dans l'album, il y a par exemple une reprise de Johnny, La fille à qui je pense.
Un gars qui fait son premier disque avec une reprise de Johnny, je trouvais ça... Personnellement, ça me faisait rire. Donc, j'ai toujours été un peu comme ça, enfin, dans une sorte de provocation malgré tout, et de... Ça suffit en soi, en fait, je voulais pas être dans l'érudition musicale, mais au contraire d'être dans quelque chose de très français, en fait. Et Johnny, pour moi, c'est vraiment le... Johnny s'est jamais exporté, quoi, en fait. Donc
C'est le Belge le plus français du monde.
Oui, complètement.
Et Johnny, je sais que c'est votre père qui l'écoutait. Ça fait partie de votre éducation musicale.
C'est ce que je suis, puis c'est aussi un milieu qui fait qu'on ne se moque pas des fans de Johnny, parce qu'on les comprend. Par la suite, après, quand je travaillais pour Johnny, quand j'ai vu son public et tout ça, enfin, ce sont des gens que je connais, quoi, en fait.
Je ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu chéris, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Tu m'enlaces, et comme je ne suis pas de place, je ne laisserai pas ma place quand je te donne 24 000 baisers. Hey, hey, hey,
hey, yeah. Qu'est-ce qui vous touche chez Johnny?
Oh, le fait qu'il chante avec son ventre. Comment dire ça, il était vraiment au premier degré quand il chantait. Ça, j'ai toujours adoré ça, en fait, de ne pas avoir de distance. T'es là complètement avec les mots, mais avec le corps, comme les bluesmen, quoi, en fait, qui sont là au premier degré. Il n'y a pas de.
Je fais un trait tous les 2000, j'en suis au moins à 800 000, et je ne veux pas m'arrêter. Yeah, 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 yeah. Je prends des paris à la roue.
Ma culture musicale est absolument pas francophone, en fait. Enfin, je suis pas un vrai dingue de chansons françaises, en fait. Mais tout ce qui a pu se passer juste après le punk, il y a une période de créativité dingue, je trouve, entre 78 et 81. Ça s'est arrêté assez brutalement, d'ailleurs, mais pendant ces 3 années-là, il y a eu des disques de dingue, dont Gang of Four, les 2 premiers disques. Bon, j'étais vraiment dingue.
Nous sommes en 1979. 4 Anglais de Leeds qui avancent sous le nom de Gang of Four publient leur tout premier album.
C'était un retour aux sources du rock'n'roll, en fait, parce que c'était une sorte d'immédiateté, des morceaux très courts, pas de solo, non, du tout, pas de. Que ce soit de la musique pauvre, en fait, il n'y avait pas des couches et des couches. ça n'est pas une musique pompière, pompeuse, enfin c'est pas sophistique, enfin c'est pas sophistique ici, ça peut l'être, mais c'est très brut. Et c'est vrai que sur Boire, je voulais pas des arrangements, veux-tu en voilà quoi.
Et vous parliez aussi du fait que vous écoutiez surtout de la musique anglo-saxonne, mais à cette époque-là, il y avait Bachung.
Oui. Alain Bachung, j'aimais pas du tout quand il faisait ses tubes, Gabi, Un vertige de l'amour. Et puis quand il a sorti Les Blessures juste après ses tubes phénoménaux, ça a été une claque incroyable. Enfin, Les Blessures ouvraient vraiment. Waouh! Ce disque est vraiment essentiel, ouais, pour moi. Et puis c'est un disque qui n'a pas du tout marché aussi. Ça
lui donnait une aura?
Ah, ben oui, c'est vraiment mieux quand ça marche pas. Enfin...
Ah bon?
Ah oui, c'est ça la musique, c'est quand. Non, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc, ouais, quand on fait de la musique aussi, c'est une certaine façon de se dire que c'est pas. Ce sont pas les chiffres qui font tout, quoi, en fait. C'est un album comme Les Blessures qui a dû se vendre à 10 000, 15 000 exemplaires, a eu beaucoup d'influence dans ce pays, quoi, quand même.
Mais Boire, l'album, ça a été un succès. Comment vous avez vécu ça?
Je comprenais pas, à vrai dire. Enfin, je m'en méfiais complètement. Enfin, il y a quelque chose qui me... Puis l'idée de départ, à vrai dire, c'était de pouvoir gagner sa croûte en faisant les cafés, bars, concerts de Bretagne. Et il y en avait beaucoup à l'époque. L'horizon, c'était ça, en fait. C'était pas du tout de partir à la conquête du pays, quoi, du tout. Le fait que c'est plus marché, c'est assez dingue, parce que normalement, les histoires finissent pas bien, quoi. Donc, que ce truc ait pu déboucher sur quelque chose, ouais, ça me paraît toujours aussi dingue aujourd'hui, quoi, en fait.
J'ai perdu ton joli goût, ma chère. Cette nuit sous les étoiles et je ne sais plus trop quoi faire. Je me sens seul, je me sens sale et ça me fout un peu en l'air. D'être bon que pour les ralentitubants sous les réverbères qui me rendent encore plus belle. Toute la nuit, bière sur bière, à la recherche d'un animal qui se laisse refaire. Ce serait égal d'avoir un homme droit et fier, ou un qui s'étale et qui jure contre la terre et la mer et les étoiles, sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un remords, sans un regret. Cette nuit après le bal et ça me fout le cul par terre. Dans les endroits un peu sales qui sentent si bon la bière. La bonne chaleur de l'animal qui se mange, qui a salé la mer, qui a sali la terre, ça t'est égal. Sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un.
Inter.
Sans
sans un regret.
Rebecca Manzoni.
Sans un adieu.
Pop & Co.
L'émission où la musique raconte l'époque. Et aujourd'hui, Pop & Co, c'est Boire, premier album de Miossec, paru il y a 25 ans et devenu balise dans l'histoire de la chanson française.
Alors, Miossec, c'est un chanteur breton, un nouveau chanteur breton, qu'on a considéré, enfin certains journalistes le considèrent comme le nouveau Gainsbourg. Pourquoi ? Ben parce qu'il boit beaucoup, parce qu'il n'articule pas les tonnes.
C'est comme ça que la RTBF présentait Christophe Miossec en 95, au moment de la sortie du disque.
Philippe Cornet a suivi Miossec pendant 4 jours en Bretagne, dans sa Bretagne natale. Alors si vous ne comprenez pas tout, pas de problème. Miossec tient absolument à ce que sa voix soit mise au même niveau que les instruments, donc il ne veut pas du tout se mettre en avant. Donc ça nous arrive par bribes, ça ajoute à la poésie de la chose, et puis surtout, ça nous change un petit peu du rap.
Mais appeler son premier album Boire, c'était quoi ? C'était un acte mûrement réfléchi ?
On n'aurait pas dû. On aurait dû l'appeler Baiser.
C'était payé ou appelé ?
On n'aurait pas dû, c'est toi qui as choisi. Hein. Je suis pas dans l'histoire, moi. Non, ça me faisait marrer, parce que c'est un titre vraiment con, quoi, et en même temps, il y a le côté vraiment jovial de la boisson, puis le côté dépressif de la boisson. Je trouvais ça marrant, quoi. Une sorte de titre à double sens, quoi. Il y a des gens qui peuvent se marrer en voyant ce titre, puis d'autres se dire merde, hein. C'est grave. Hein.
Pour vous raconter Boire, premier album de Miossec paru il y a un quart de siècle, je saute par-dessus la Manche. Ça sonne dans un bureau, quelque part à Londres.
Allô ?
Jean-Daniel ?
Oui.
Oui, c'est Rebecca Manzoni.
Oui.
Jean-Daniel Beauvallet est le premier à avoir écrit sur l'album Boire. Son article paraît dans le magazine des Inrecuptibles et il commence comme ça. Boire impressionne comme rarement dans le rock d'ici.
Je sais mettre à la hauteur de ce disque. Boire, je l'ai découvert par des maquettes en fait. Bien avant qu'il soit un disque, bien avant qu'il soit enregistré proprement. C'était une cassette qui m'avait été envoyée de manière anonyme depuis Brest par un garçon dont je n'avais jamais entendu parler. Et comme j'ai tendance à tout écouter, je l'ai mis sur le lecteur cassette du journal. Et puis, il était en auto-reverse, le lecteur de cassette. L'album a tourné comme ça en boucle pendant toute la journée, si bien qu'à la fin, quelqu'un avec qui je partageais mon bureau m'a dit « C'est quoi cet album ? C'est super !» Et je lui ai dit « Mais non, c'est pas un album, c'est des maquettes. » C'est des chansons qui nous ont vraiment complètement envoûtés, obsédés même. Miossec, c'est une espèce de brutalité, une sensualité en même temps. C'est à la fois très violent et très doux. Les maquettes imposaient déjà un ton qu'on n'avait jamais entendu. D'ailleurs, à tel point que ceux qui les avaient écoutés sont devenus presque militants, voire ambassadeurs de Miossec auprès des autres. Parce qu'à l'époque, il était sur le point de tout arrêter, hein, Miossec. C'était sa dernière chance, cette cassette.
Cette fameuse cassette, Christophe Miossec l'avait dupliquée à la main en 40 exemplaires pour l'envoyer à des journalistes et à des maisons de disques, comme une bouteille à la mer. Cette cassette, donc, Miossec me l'a amené pour notre rendez-vous. De mon côté, j'avais apporté un engin avec des grosses touches qui font clac pour pouvoir écouter. Sur la terrasse du café où on était, on a trouvé une prise pour brancher le machin et j'ai appuyé sur play.
Au matin, car aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin.
Il y a un problème.
Ouais. C'est soit la cassette, soit l'appareil.
Non, mais je pense que ma fille, elle a dû jouer avec la molette.
Oui. Ah oui, voilà.
Du définement de la vitesse.
Oui.
Comme un crabe déjà mort, tu t'ouvres entre mes mains. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et te genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sourd. Un peu à bout, c'est rien. Moi, je veux de toi, c'est tout.
Vous l'aviez réécouté ou pas ?
Non, 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 du tout. Non, je suis pas très... Non, par rapport à ce que je fais, j'ai un drôle de rapport. Non, je suis pas dans l'écoute.
Donc en fait, ça fait 25 ans que vous aviez pas écouté la maquette ?
Ouais, vraiment. On était deux, enfin sur la maquette. Hein. C'est la cassette réalisée avec Guillaume Jouan... dans ma chambre chez mes parents ce qu'on vient d'écouter, quoi, en fait. Et quand on est tout seul après tant d'années, on est un peu au bout du rouleau, on est un peu perdu, enfin, on sait plus trop où on en est, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'avec Guillaume, ça a permis de tout éclaircir. Quand on est arrivé en studio à Bruxelles, on a fait exactement la même chose. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est assez dingue, ouais, parce que généralement, on fait plus riche, on fait mieux, on fait plus professionnel, etc., etc. Mais je crois que c'est le vrai truc de Boire, c'est que l'album est exactement la reproduction de la cassette, en fait. C'est vraiment... On n'a rien changé. C'est pour ça que Boire a pu avoir cette vie-là.
Je rembobine. Je vous rends cet objet précieux.
Les trois piliers de l'album Boire sont Christophe Miossec, Guillaume Jouan et Bruno Leroux. À l'époque, en 1995, quand le disque est publié, qu'est-ce qui cartonnait à la radio ? Un morceau du groupe NTM ? Michael Jackson. Et Céline Dion.
J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les flammes.
Resté numéro 1 en France pendant 44 semaines. Si je ne m'abuse, des semaines, il y en a 52 dans une année. Donc en 1995, elle est longtemps restée au top, Céline.
Allô ?
Jean-Daniel Beauvalet, journaliste aux Inrecuptibles, resitue l'arrivée de Miossec au milieu de tout ça.
En 95, Miossec, c'est un ovni absolu. D'ailleurs, beaucoup de maisons disques avaient reçu la même cassette que moi et ils l'avaient rejetée, mis à la poubelle immédiatement, disant « ça passera jamais à la radio, c'est trop compliqué, il sait pas chanter ».
Ce serait quoi pour vous l'originalité, la spécificité de la voix de Miossec ?
C'est pas un chanteur de bel canto. Et de ses limites, de ses restrictions, il a fait sa force en fait. Il s'est battu à l'intérieur de ses limites, à l'intérieur de ses murs. Et la proximité du chant fait qu'on se sent immédiatement happé. La voix de Miossec, c'est comme la voix de Neil Young. C'est des voix qui sont ingrates, qui sont pas faciles à appréhender, qui peuvent paraître hostiles. Et en fait, qui sont beaucoup plus sophistiquées qu'elles n'en ont l'air. Et c'est quelqu'un qui raconte des histoires comme un vieux bluesman américain.
Et puis c'était l'économie aussi, peu de moyens, donc on pouvait pas délirer non plus.
Et Boire, c'est un album aussi où il n'y a pas de batterie.
Oui, c'était l'idée de ne pas sonner comme un groupe de rock français, en fait. J'avais vraiment pas du tout envie de...
C'est contradictoire.
Oui, complètement. Enfin, John Lennon disait que le rock français, c'était comme le vin anglais, mais j'ai toujours pris ça au sérieux. Il y avait quelque chose de vulgaire, quoi, en fait, dans le rock français, quelque chose un peu con-con, quoi. Enfin, con.
Le fantôme du rock français s'est manifesté.
Oui, voilà. Il est pas petit. Puis une grosse batterie, enfin, je veux dire, il y avait quelque chose, non, j'en voulais pas, quoi. Je pense que c'est vraiment le truc du disque, c'est de... l'espace est libéré et vu la voix que j'ai, ça lui laisse de la place aussi.
Tu en sais davantage que moi, mon amour, sur tout le mal que je t'ai fait. Tu connais mieux que moi les hommes, mon amour, qui vous manquent tellement de respect. Merci pour la fin, merci. Merci pour les nerfs, merci pour la joie, merci, mais je te perds comme un con, c'est bien moi.
Si on en vient au texte de l'album, il y a beaucoup de textes.
Oui, c'est aussi l'idée, on casse pas les phrases en comme ça... Derrière tout ça, il y a la grosse influence de Lou Reed quand même, cette façon de gambader sur la musique et de se promener sur les pieds.
Mais quand on écoute le disque, ça galope, ça gambade pas toujours. Ça gambade pas, moi, je trouve. Hein.
Ça rame.
Non, ça rame pas. Ça galope avec rage, quoi.
Ouais, c'était ça vraiment l'idée de faut dire ce qu'on a à dire et de pas avoir à couper des phrases parce que ça rentre pas dans le schéma où la chanson française se fait comme ça. Enfin,
à ce sujet-là, quand on parle de vous, on évoque aussi des écrivains, les écrivains que vous aimez, comme Henri Calais, Emmanuel Bove. Mmh. Mais moi, je voulais qu'on parle d'écrivains américains et notamment de Jack Kerouac. Mmh. Je vous ai demandé d'apporter un livre. Vous l'avez là ?
Oui. Les livres sont dans les poches. Ouais, c'est Satori à Paris, en fait, hein, de Jack Kerouac.
Alors, pourquoi Kerouac ?
Ben, depuis que je suis gamin, Kerouac, ouais, la lecture de Sur la route, tout ça, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi, donc il m'a fait découvrir des choses comme ça quand j'étais assez jeune. Et ouais, ça a vraiment imprimé toute ma vie, en fait, mais pas tellement le style littéraire ou quoi que, mais surtout le personnage, le bonhomme, la façon d'aborder la vie, quoi, en fait. Donc, la liberté de ton, la liberté des gestes, hein, la liberté d'être sauvage, hein. Enfin, d'avoir cette sauvagerie, moi, ça m'a toujours parlé énormément. C'est peut-être pour ça que dans le monde du travail, j'avais des problèmes, parce que j'avais cette sauvagerie en moi qui faisait que ça pouvait ne pas coller. Cette sauvagerie, je pouvais la trouver dans la musique. Hein. Je savais que je pouvais la trouver dans la musique. Donc c'est pour ça que j'ai autant persévéré aussi sur mes maquettes, j'ai autant travaillé, parce que c'était le prix à payer, enfin le travail pour accéder aux grands espaces. Enfin, vraiment sortir de l'enclos, quoi.
Si tu connais le désir qui va vite et qui dure longtemps, je voudrais que tu m'y précipites. Du haut tes 40 ans, l'histoire devait être écrite pour que tu sois si belle maintenant. Une vraie beauté à son zénith, ce n'est jamais à 18 ans. Dis-moi, que fais-tu ensuite? Envisages-tu des jeunes gens qui devant toi s'effritent tellement que ce vent, moi je serai ton parasite pour un bon moment, moi je serai ton parasite.
Vous appelez pour l'état civil, tapez 1. Et pour toute autre demande, tapez
Pop & Co, P-O-P-N-C-O, l'émission où la musique raconte l'époque tous les samedis sur France Inter, de 11h à midi.
Veuillez patienter, vous allez être mis en relation avec un opérateur.
Donc là, en fait, je suis en train d'appeler la mairie de...
Toulouse.
Bonjour et bienvenue à la mairie de Toulouse. Nous allons donner suite à votre appel.
La mairie de Toulouse, pourquoi ? parce que c'est là que travaille Hervé Bordier. Hervé Bordier est directeur artistique du festival Rio Loco et il fut cofondateur des Transmusicales de Rennes, le festival musical des Fricheurs en France. Hervé Bordier est rennais d'origine. Je vais vous refaire la question que je lui ai posée quand on s'est parlé, parce que j'ai oublié de l'enregistrer. Donc cette question c'est, pourriez-vous me dresser un panorama du rock breton des années 80 et 90, Hervé Bordier ?
Brest avait cette image de renouvellement d'une scène rock plus punk qu'avait perdu Rennes avec la couverture d'Actuel, les jeunes gens modernes aiment leur maman avec Marquis de Sade, l'arrivée pas encore d'Étienne, mais presque, puisque le groupe, voilà, Étienne Dao, il y avait les espions qui allaient devenir Niagara, donc on était sur une formule plus pop, plus sucrée, ce qui a toujours été un peu quelque part Rennes. Et Christophe, avec cet album Boire, et puis il a fait cette chanson sublime Brest un peu plus tard, mais a sublimé Brest, là je pense que c'est vraiment l'artiste qui, pour moi en tout cas, est une référence à cette ville, quoi.
Et voilà comment Brest est présenté dans un reportage de l'émission Les Enfants du Rock sur Antenne 2 en 1983.
Brest, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre, tous les bâtiments sont d'après-guerre, et le tout est pratiquement entouré d'HLM tout autour. C'est une ville en deux parties, séparée par la Pinfeld, avec ses habitants les militaires, les travailleurs de l'arsenal, les branchés et les ivrognes. En cherchant bien, on trouve quand même le bonheur, c'est-à-dire les endroits bien, les endroits branchés.
Nous sommes ensemble dans un café de Ménilmontant, à Paris, mais Christophe Nyosek est de Brest, tout le temps.
C'est une ville qui a toujours eu son répertoire, enfin qui a toujours eu ses propres chansons. Et les gens de l'Arsenal, quand ils se réunissent avec d'autres gars du Havre, de Saint-Nazaire, enfin d'autres ports de France, enfin, sont rendus compte qu'à la fin des banquets, il n'y avait que les Brestois à avoir leur propre répertoire, leur propre chanson, enfin, Fanny de la Ninon, etc., etc. Enfin, et donc, quand j'ai commencé la chanson, je savais très bien que je m'inscrivais dans cette lignée-là, quoi, en fait, de chansons brestoises.
Même dans la musique, je pense à une chanson comme Évoluer en troisième division, par exemple.
Tu sais, c'est con les jeux de balle quand on est à trois, il y en a toujours un qui touche que dalle, hormis peut-être des bouts de croix.
C'est la chanson la plus sceptique de l'album, parce que c'est du trois temps. Finalement, la musique bretonne, elle est en moi, parce que je suis beaucoup plus à l'aise sur le trois temps, enfin. Naturellement, je tends vers le trois temps.
Mais je ne suis qu'un bon cheval ou un gros bourrin, tu as le choix. N'ailleurs droit, c'est brutal, évoluant. Des trois qui sont la bière et l'animal, les tacles et la mauvaise foi. Mais pour les coups de pied aux étoiles, oh pour ça je suis le roi. Quand je m'achève sur les comptoirs, comme une grosse baleine qui attend sans trop y croire. Qu'un jour tu lui reviennes, qu'un jour tu lui déclares. Tu joues pas si mal quand même, qu'un jour tu lui déclares. Pas si mal quand même. Fais comme si j'étais en sueur. Fais comme si j'étais bien meilleur.
Quelle relation vous avez avec Paris, vous ?
Conflictuelle. J'arrive jamais à tenir très longtemps, en fait. Hein. C'est pas un endroit qui me fait rêver du tout, en fait. Hein. Puis Paris, ce que c'est devenu, enfin, c'est pas... C'est vraiment pas marrant. Enfin, pour moi, Paris, c'était vraiment les petits bistrots, les cafés arabes, enfin, toute cette population ouvrière qu'il n'y a plus du tout, qui ne vit plus, qui ne peut plus dormir sur Paris. Enfin, c'est effroyable. Enfin, cette ville, waouh, non. Non, non, c'est... Et Georges Perros, un écrivain qui s'était installé à Douarnenez, qui disait que s'il fallait dessiner les contours de mon corps, on dessinerait les contours du Finistère. Et ben, pour moi, ça serait la ville de Brest, en fait. Et c'est une ville où il n'y a pas eu d'industrie, il n'y a pas de bourgeoisie, donc il n'y a pas de code. Tous ces codes de la bourgeoisie n'ont pas lieu d'être à Brest, parce que notre bourgeoisie à nous, c'était des gradés de la Marine nationale ou les hauts fonctionnaires de l'arsenal, donc c'est pas... C'est pas une ville comme Nantes, Lyon, Bordeaux, avec toute cette bourgeoisie qui domine la ville.
Dans le livret qui accompagne la réédition de Boire, premier album de Nyosek, il y a des textes de journalistes, d'artistes, de proches, et il y a la lettre d'une fan. Elle est signée Amandine, 37 ans, bibliothécaire. Amandine écrit ça. « Cher Nyosek, Il aurait peut-être été plus plaisant de lire que je vous ai découvert dans les pages des Un Rock. Mais ce serait mentir. J'étais au collège. Mon père m'a donné une compile Ricard que son pote de bureau de tabac lui avait filée. J'écoutais ça un soir dans ma chambre en zappant les titres, peu convaincu par la trouvaille paternelle. Puis les premières notes de « Regarde un peu la France » ont tapé dans le mille.
Regarde-moi sans défiance, sans coup de sonde, sans froideur, oh ma belle innocence qui avance à coûte que d'heure, même si c'est la crise en permanence et que nous sommes complètement chômeurs, on trouvera la solution, je pense. Allez, avance, n'aie pas peur, c'est au fond de tes yeux.
La lettre d'Amandine à Miossec se poursuit comme ça. Vous êtes tombé pile au moment où mon enfance s'est cassée la figure et où ma petite conscience politique et sociale a commencé à poindre. Parents au chômage à 50 ans, les méandres de l'adolescence, les grands-parents qui s'étiolent, bref, la vie.
Regarde un peu la France, c'est magnifique, non, toute cette torpeur, tous ces anciens de l'adolescence, immobiles devant Pasquale l'horreur.
Avec ma compagne, on était vraiment complètement chômeurs à cette époque-là, mais même sans toucher le chômage, en fait. Donc ça, il y a une façon, ouais, de pouvoir parler du fond du trou. Enfin, je me sentais pas du tout dans le trou, hein, tout allait bien, mais hein, c'est vrai que socialement, je savais d'où je parlais, quoi, en fait. C'est pas de la pose.
Pour moi, Boire, c'est un album politique aussi. De ce point de vue, d'où vous parlez-vous? De ce que vous dites de la France, de sa torpeur? On est en 95, il y a eu quand même pas mal de désillusions.
Oui, puis beaucoup de désillusions apportées par des gens de gauche. C'est un peu ce qu'on appelait la gauche caviar à l'époque. Hein. Et c'est pareil dans ce milieu de la chanson française, il y avait plein de gens qui se revendiquaient de gauche, mais avec une aspiration, une vie de petite bourgeoise, quoi. Donc... quelque chose d'un peu terrifiant, quoi, où il y avait beaucoup de bons sentiments. Enfin, ce qui...
L'album Boire, c'est l'anti-gauche caviar.
C'était pas pensé comme ça, mais en tout cas, oui, ça donne quelque chose dans le genre, ouais, de pas être dans cette gauche qui avait la parole. Hein, qui... Je savais pas à l'époque quand j'écrivais, mais c'est vrai que ça fait écho à pas mal de gens qui se retrouvaient là-dedans, en disant, ouais, on veut bien être de gauche, mais pas dans cette gauche-là, quoi, en fait, hein, qui est juste insupportable.
Pour écrire et mettre en son l'histoire de Boire, je me suis servi de Miossec, une bonne carcasse, excellente biographie de Thierry Jourdain parue aux éditions Le Mot et le Reste, la réédition de Boire chez le label Piasse, avec un copieux livret de textes et de photos. Pour terminer notre rencontre, je lui ai demandé de choisir un disque diffusé sur France Inter en ce moment.
Moi, je vais choisir Jeanne Hadid. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle est aussi.
C'est-à-dire ?
Elle est absolument entière. Enfin, puis j'ai eu la chance de la voir avant qu'elle soit connue. Et elle, en première partie, elle était toute seule avec sa basse. Et c'était, waouh, complètement extraordinaire. C'est des moments comme ça qui me font aimer la musique, en fait.
Jeanne Hadid, Off My Back, dans Pop & Co. et sur France Inter. Just too lazy. I guess the joke is on me.
my story for? We get off my back, baby, I wanna do some more. I'll take some authority back, what am I waiting for? Say, aren't you hungry?
John Haddad sur France Inter.
Ah oui, t'as déjà ton micro et tout.
Oui, parce qu'il faut que j'enregistre l'entrée. On va la refaire d'ailleurs, d'accord?
Ah ok.
On recommence. Bonjour Maxime Le Guil.
Salut Rebecca, ça va?
La suite de Pop & Co se passe chez Maxime Le Guil. Maxime Le Guil est producteur, ingénieur du son, bref, ce qu'on appelle un homme de l'ombre quand on fabrique un disque. En 2014 et 2015, Maxime Le Guil a travaillé sur Les Vestiges du Chaos, dernier album inédit de Christophe. Pas Christophe Miossec, hein, Christophe tout court, celui des mots bleus. Avec Maxime Le Guil, on va donc entrer dans les coulisses de Dangereuse, cette chanson-ci. Sous-sol, face à plusieurs écrans d'ordinateur et face à un tableau de bord qui compte une centaine de boutons. C'est le studio de Maxime Le Guil, l'un des producteurs des Vestiges du Chaos, album de Christophe, et comme producteur, ils étaient donc plusieurs, parce que c'était particulier de bosser avec Christophe.
Avec Christophe, c'était en fait l'aider à mettre de l'ordre et essayer de l'aider à finir, surtout parce que quand je suis arrivé dans l'album, ça faisait déjà 3 ans qu'il y travaillait, avec un autre réalisateur qui s'appelle Christophe Van Uffel, et ils avaient des maquettes de presque tous les titres. Il n'y avait jamais de texte avant de faire l'album, comme jamais de toute façon. Il y avait ce qu'il appelait du yop, du yaourt. Ils chantent n'importe quoi en anglais, souvent, avec un anglais, enfin avec des mots qui ressemblent à de l'anglais, pas des mots qui ressemblent à du français, je sais pas pourquoi.
Et est-ce qu'il existe donc une maquette où ils chantent en yaourt, en yop, comme il disait?
Alors j'en ai pas mal, je sais pas si je l'ai de ce morceau-là. Et attends, j'essaie de trop trouver le yaourt de Dangereuse. Never, never,
on comprend plus.
Voilà, donc là, typiquement, il y a des mots qui étaient importants pour lui. Never, je l'aperçois, tout là-bas, elle fait ce qu'elle veut, je comprends pas vraiment. Il pouvait ne pas du tout avoir les paroles, mais par contre, il pouvait avoir quelques mots. Et ceux-là, ils étaient très précieux pour lui. Les personnes qui écrivaient les paroles, seules ou avec lui, étaient tenues de les garder, en fait. T'imagines que c'est très dur de trouver exactement...
Faut entrer exactement dans le cadre, dans la scansion qu'il a fixée, et en plus, il y a la contrainte d'utiliser les mots auxquels il tient absolument. Donc là, c'était never, par exemple.
Et puis, une autre contrainte, c'est qu'il faut accepter de faire d'aller présenter son texte à 4h du matin. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce qu'il faut savoir qu'avec Christophe, on travaille que la nuit, et c'est pas un mythe. Enfin, nous, on a fait tout l'album que la nuit. Et d'ailleurs, je crois que ça participe de l'ambiance de l'album. Et donc, c'est...
On peut écouter le début du yaourt, le yaourt tout seul de chez Tout Seul.
Never, never, to please another game. Never let me keep your lover sleeping nowhere. Come away.
En fait, tout est là. Tu vois, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le yaourt, c'est que on pourrait dire il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas les mots, mais en fait, il y a exactement le débit, il y a exactement la mélodie, il y a exactement la métrique.
Est-ce qu'on peut écouter la version finale? La version vocale finale?
Ah non, il a dit 9h au final. Il a dit 9h, il a pas dit never.
13h. 13h. Des ombres, elles me cachent. Des herbes folles qui s'envolent. Je parcours presque ses envies.
Une voix qu'il a fait très tard le soir et...
Je l'aperçois tout là-bas.
Et en fait, il chante à peine.
Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas.
Il chante à peine, il chante très très proche du micro et...
Elle veut le comforter.
Et c'est presque dans le souffle. Tout est dans le souffle, en fait.
Dangereuse. Se détend.
Il chantait extrêmement juste aussi. J'ai jamais utilisé le moindre outil, et pourtant c'est très rare qu'on puisse dire ça, mais j'ai jamais utilisé le moindre outil de correction autrement que pour un effet créatif, pour un effet. Il joue avec l'écho, il joue avec le rebond de sa voix dans la réverb, de sa voix dans l'écho, etc. Et je crois que ça fait partie de la raison pour laquelle c'est émouvant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a encore et toujours Dangereuse, morceau de Christophe, dont on soulève le capot avec Maxime Le Guil, qui a coproduit cette chanson comme l'ensemble de l'album où elle figure. Les coulisses de Dangereuse, c'est Pop & Co. Et là, tout de suite, on écoute les cordes du morceau. C'est marrant, au milieu des cordes, ça fait un peu coup de clairon, ça, d'un coup.
Ouais, c'est vrai, mais c'est toujours un peu la modernité de Christophe. Quand on enregistre un très très bel arrangement d'orchestre comme ça, on aurait pu se dire que c'était super comme ça et qu'on ait gardé une version très acoustique. Et finalement, il y a toujours un petit truc électronique ou un petit truc comme ça qui est un peu sournois, qui vient se glisser, ou comme ce petit truc-là qui est très fort et qui est au contraire très électronique et qui n'a rien à voir avec l'arrangement de cordes.
Qui a l'air complètement décalé.
C'est ça, qui est complètement décalé, mais finalement, c'est un peu comme lui. Il y a toujours un petit élément comme ça, un épice.
À la fin, il y a les guitares, alors.
Il y a des guitares parce que c'était notre façon à nous d'essayer de rajouter de la tension, parce que dans les morceaux de Christophe, il y a toujours une tension sous-jacente, toujours cette idée de contraste dont on parle depuis tout à l'heure. Et il fallait surtout pas que ça devienne juste une balade jolie, il fallait toujours qu'il y ait une tension, une espèce de nervosité, parce qu'il était comme ça, il fallait qu'il y ait une petite rage quand même. Et du coup, c'était notre façon, à défaut d'avoir mis une batterie, de rajouter de l'électricité en fait, pour pas que ça devienne juste un morceau de variété.
Si on écoute dans l'ordre, la voix, le piano préparé là, qui sonne comme une harpe, les cordes, et puis la guitare électrique.
Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas. Elle veut le comforter. Dangereuse. Se détend. Je l'aperçois.
Je suis heureux parce que c'est un album qui a touché pas mal de gens et c'est pas un gros succès commercial, mais c'est un album en tout cas les gens souvent se sont accrochés à une chanson qui représente un moment qui était là, un moment de leur vie, qui les a accompagnés ou aidés à un moment de leur vie. Et je pense que ça représente bien Christophe parce que c'était quelqu'un de très humain. Il y avait toujours du monde chez lui, toujours il parlait beaucoup, il aimait parler, il aimait bien être avec des jeunes. Il y avait toujours des gens de 20 ans ou des gens très excentriques, mais très excentriques, pas pour être excentriques sur Instagram, des gens excentriques que personne ne connaissait en fait. Il y avait souvent des inconnus chez lui. C'est juste qu'il adorait ça en fait, il adorait les passionnés, il était extrêmement passionné lui-même, extrêmement jusque boutiste. Moi, il a été très dur avec moi parfois, très 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 exigeant, très exigeant. On peut travailler 3 jours sur un titre, quasiment pas dormir, et il peut écouter et dire. Il avait une phrase qu'il disait souvent, il disait il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le niveau là. Et ça donnait pas beaucoup d'informations, si ce n'est. Et après, il donnait quelques images. Par exemple, il pouvait dire faudrait que tu revoies ce film. Faudrait que vous revoyiez parce qu'on se voyait. C'est toujours vous voyez. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Enfin, je trouvais que c'était très beau. Et du coup, parfois, il nous est arrivé de rien faire et de regarder un film.
9 heures. Bonheur. Des mouvements délicats.
Assez émouvant de. Je t'avoue.
Qu'est-ce qui représentait Christophe pour vous?
J'ai qu'un mot qui me vient à la tête, c'est un génie, mais je trouve que c'est un peu cheap, alors j'essaie de trouver un autre mot. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il avait une très faible connaissance de la musique. Mais en fait, dans l'ambiance qu'il crée, il fait naître dans les personnes qui travaillent avec lui une espèce de magie en fait. C'est-à-dire que il suffit qu'il passe dans le studio avec sa doudoune militaire affreuse en soi. Enfin, il y avait tout un ensemble de choses comme ça. Il y avait un côté à la fois très esthète et d'extrêmement bon goût, extrêmement cultivé sur pas mal de choses. Il y a un côté hyper mauvais goût aussi, si tant est qu'on puisse définir le mauvais goût. Et c'est cette espèce de mélange de choses qui inspire les gens qui travaillent autour de lui. Je connais personne qui a travaillé hors de lui de la même façon qu'il a travaillé avec lui. C'est-à-dire que j'ai essayé de recréer des collaborations avec des personnes avec qui on avait travaillé ensemble sur Christophe. Ça n'a jamais fait la même chose quand il n'était pas là. Quand il n'y avait pas un élément de Christophe, un son, une voix, ou qu'on était dans son endroit, cet appartement un peu art déco, l'ambiance, la lumière rose, le parfum, la fleur d'oranger. Il y a tout un ensemble de sensations qui étaient créées et qui étaient extrêmement inspirantes. Tout ça, ça me paraît être un peu une espèce de moment presque un rêve dans ma vie, en fait. Donc c'est un peu étrange.
Ça semble irréel ?
Ouais, ça semble un peu irréel.
Merci à Maxime Le Guil pour la balade dans ce morceau, Dangereuse, une balade qui est finalement devenue un portrait de Christophe, qui avait intitulé l'un de ses disques, Le Beau Bizarre. Cette émission était réalisée par Coy Nguyen, Ilinka Negulesco assure la préparation et Jean-Baptiste Audibert joue le rôle indispensable de conseiller musical. Merci à Miossec, au label Pias, Jean-Luc Mar et Laetitia Juanco, et merci aussi à Maxime Le Guil.
la semaine prochaine, Pop & Co est Ennio Morricone. À samedi.